Gata pour l'ouverture du sutra.
Ce dharma infiniment subtil et d'une profondeur sans égal, il est rare de le rencontrer, même au cours d'existences innombrables. Maintenant,
Pour ceux qui n'étaient pas là après le discours hier et jusqu'à maintenant, ces périodes de méditation qu'on avait fait après, on s'est tourné vers le mur plutôt que d'être tourné les uns face aux autres. Parce que dans une tradition zen, c'est ce qu'on fait, on s'assoit face au mur. Dans d'autres traditions, comme la nôtre, on passe au centre. Et suite à cette expérience, pendant notre réunion de travail ce matin, il y avait ce sujet revenu et j'ai dit que j'allais l'aborder pendant le talk. Et il y avait un autre sujet qui était survenu dans la réunion ce matin, c'était est-ce qu'on pratique s'asseoir avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et là, il y avait différentes opinions. Et j'ai dit, j'allais aborder ça ce matin aussi. Juste pour vous donner un peu le prologue, ou comme dans les séries, dans les épisodes précédents, juste pour vous situer ceux qui n'étaient pas là ce matin. Ou cet après-midi. Et ce n'est pas uniquement ceux qui sont arrivés, mais il y a Adrien aussi qui n'était pas là pendant ses assises et pendant la réunion. Donc, il faut que je regarde, je ne vais juste pas oublier les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux choses, les yeux ouverts ou fermés, face au mur, face aux autres, se rejoignent. C'est pas un hasard. Tout se rejoint. Donc, ça, c'est partie des choses qui... C'est une heureuse coïncidence que je peux aborder ces deux sujets dans la même conversation ce matin. Pour ce qui est les yeux ouverts et les yeux fermés, dans la tradition zen, c'est pratiquement universel qu'on dit les yeux ouverts. Et le regard posé, c'est pas fixé, le regard posé à 45 degrés devant. C'est l'instruction de base que toute personne qui donne une introduction à la méditation zen va dire, ou est censée dire. J'espère que mes élèves qui donnent les instructions le disent. Eux, ils ont reçu cette instruction de moi, donc s'ils disent ou non, ils ont oublié ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment essentiel, ça. Alors, pourquoi c'est essentiel ? Il y a des... Il y a différentes versions de pourquoi on fait ça. Du plus simple que si on ferme les yeux, on va être focalisé sur l'intérieur, moi-même, etc. Si on ouvre les yeux, on s'ouvre au monde. Ça, c'est vraiment le truc de base. Mais il y a des façons plus... poétique peut-être, ou qui va nous aider à élargir cette simple instruction, peut-être, pour aborder ça. Et il y avait... j'étais obligée, pendant la pause, là, de chercher les traductions en français des choses que je voulais dire. Parce qu'il y a des enseignements traditionnels et courants, tout ça, que j'ai complètement intégrés en anglais. Je pouvais même pas les regarder dans les livres, mais... Pour être plus précis, je voulais avoir des traductions plutôt que de traduire moi-même, juste en vrac comme ça. Donc parfois, je traduis juste comme ça, parfois j'ai trouvé vraiment des choses précises. Bon, ceci dit, il y avait un de nos ancêtres, qui on appelle le cinquième patriarche, qui était... encore une fois, en Chine. Et lui, il donnait l'instruction de avoir les yeux ouverts, mais de penser, avoir cette idée que c'est une vision comme si on regardait les montagnes au lointain. Donc, il ne s'agit pas de focaliser sur ce qui est juste devant nous, c'est d'avoir cette vision lointain, au lointain. Regarder les montagnes au lointain. Et quand on fait ça, bah, c'est plus large, la vision. C'est très naturel. Et nos ancêtres, non, vraiment loin, qui étaient les chasseurs, qui vivaient dans un environnement où ils étaient obligés d'avoir une attention très large... Ils n'étaient pas comme nous à être fixés sur les téléphones. Ils n'avaient pas le regard figé sur quelque chose. C'était très large. Ils étaient obligés. C'était une question de survie. Mais ça donnait aussi une autre façon de vivre dans le monde. D'être parmi tout ça, d'être avec tout ça, d'être tout ça, d'être l'univers entier. Parce qu'on avait ce regard large. Nous, ça, évidemment, nos circonstances sont différentes. On a d'autres façons de vivre dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cultiver cette vision périphérique, disons. Parce que c'est ça qu'on fait quand on pose le regard. Et une autre instruction que ce même maître avait donnée, c'était de soit... regarder comme si on regardait les montagnes au loin, mais aussi regarder comme si on regardait le numéro 1. Le numéro 1 en caractère chinois, c'est juste un trait horizontal. Pour ceux qui ont fait la calligraphie, c'est juste un trait. Et ce trait est infini. Ça, c'est pas fin. Il n'y a pas de fin. Et donc, on regarde, on pose notre regard comme si on regardait les montagnes au loin, ou le numéro 1 qui est juste un trait, l'horizon, juste un trait. Ça nous donne un regard plus large, comme j'ai dit, plus vaste et beaucoup plus relaxé. Beaucoup plus relaxé. Et donc, notre méditation est beaucoup plus relaxée quand on fait ça. ça, et il y avait même, il y a des gens même qui disent, et moi j'observe pour moi-même aussi, j'observe ça. J'ai testé pendant cette période de méditation de vraiment observer ce qui se passait quand je faisais ça. Et il y a moins d'activité mentale. Les émotions négatives, les habitudes, j'ai peur, l'attachement, je vais saisir. Et il y a moins de ce sens qu'il y a un moi qui observe. Parce que c'est large. Et il y a des gens même qui disent que si vraiment on cultive cette, dans la méditation, on pose le regard et on cultive cette vision périphérique. Je fais comme ça. Parce qu'il y a même un exercice qu'on dit parfois, on met les mains derrière la tête, on pointe les index comme ça, et puis on fait comme ça pour amener jusqu'au moment où on voit les deux. Et pour faire ça, on est obligé de cultiver cette large, cette vision périphérique qui est là. Et est-ce qu'on peut garder ça? Est-ce qu'on peut juste demeurer dans cette vision large? Et ça, on dit, il y a des gens qui disent, que, ou il y a un maître, je ne sais pas qui disait que si on demeure dans cette façon d'avoir les yeux ouverts, cette vision périphérique, quelque part dans le zendo, s'il y a une mouche qui se pose, on le sait. En étant notre awareness, comme on dit, conscience. Je ne sais pas, c'est difficile en français. Hein.
Attention,
awareness, vigilance. Conscience, présence, je ne sais pas, mais on s'étend ça. C'est tellement large et vaste qu'une mouche là-bas, je peux le sentir. Je le sais. Et moi, c'est mon expérience, mais c'est aussi. On entend toutes ces histoires des grands maîtres qui peuvent voir à travers les murs, qui peuvent voler, qui tout un tas de pouvoirs surnaturels, etc. En partie, c'est dû à ça, à cette extension étendue du conscience, d'awareness, de le petit mouche qui se pose par là. Et donc, il y a moins de cette activité mentale, de ces trucs névrotiques, je reviens toujours sur la même chose, la peur, l'attachement, saisie, etc. Ce moi, c'est une autre façon. Il y a moins de cette sens de moi qui observe, qui est très classique, on connaît tout ça. Et il y a plus d'attention, de présence et de repos. C'est comme si on se repose dans ça aussi. Et donc c'est plutôt que de fixer un point qui est une vision focalisée, centrale. Donc c'est pas fixer un point. Souvent on va voir les trucs, on va fixer un point dans les pratiques autres qui sont peut-être plus basées, l'objectif est plus ne pas être distrait, on va dire, fixer quelque chose pour ne pas être distrait. C'est pas du tout ce que nous, que le Zen préconise. Et je dis pas que ces pratiques-là sont pas valables. C'est valable pour ce que c'est. C'est juste que pour nous, c'est pas ça qu'on fait dans cette pratique. Et donc, il s'agit plutôt d'activer ce vision, mais ce champ périphérique. Et de étendre notre awareness à tout ça, d'inclure tout. C'est une pratique non pas d'exclusion, c'est une pratique d'inclusion à l'infini. Donc je fais ces gestes comme ça. Quoi. Donc c'est très très, c'est essentiel dans la pratique ça, dans la pratique zen. Alors, il y avait des gens qui disaient « Ah, j'arrive pas, je peux pas garder les yeux ouverts. » Ben, c'est quelque chose à regarder et de cultiver. De temps en temps, c'est vraiment pas possible, on ferme les yeux, quelques instants, moi je fais ça, quelques instants juste pour souffler ou juste pour, je ne sais pas, revenir à quelque chose. Et puis je recommence, j'ouvre les yeux de nouveau. Ou parfois, mais là, ça pose des dangers, je lève les yeux et j'essaie de voir si je peux étendre ce champ en regardant droit. Ça, c'est piège parce qu'on va être accaparé par tous les trucs sensoriels. Tout ce qui est là, on va être accaparé par ça, on va se fixer, etc. Ça va relancer l'activité mentale et tout ça. Tandis qu'ici, on n'est pas focalisé sur le plancher, bien qu'on peut passer des heures à regarder le plancher, voir les différents patterns et tout ça. Hein, c'est, évidemment, il y a des moments où on fait ça. Et on n'est pas fixé non plus à ce qui est au large. C'est presque comme si on est au milieu de l'océan et il n'y a pas de repère. Je sais moi-même, la première expérience que j'ai, bien que je n'ai pas... première chose dont je me rappelle, où j'ai expérimenté le vaste vide sans repère. Je crois que j'avais 7-8 ans et j'étais dans un truc de scout où on allait sur un bateau. Je viens du pays de Minneapolis, justement, pour ceux qui sont au courant de ICE et tout ça. C'est ma ville natale. Je suis très fière de mes compatriotes. Il y a des lacs partout, de différentes tailles. Et donc, on avait une excursion avec des scouts sur un lac. Et c'était un lac tellement grand qu'au milieu, on ne pouvait pas voir les rives, comme dans le mer. Et à cet âge-là, j'avais 14 ans la première fois que j'ai vu la mer. Parce que c'est vraiment au centre du pays. Et donc c'est mon première expérience de ça. Vous qui vivez autour de la mer, ou en France, tout le monde va au bord de la mer, c'est une autre chose. Mais moi, c'est la première fois. Et donc, je me souviens, j'étais au milieu de cet lac, ce lac, et on nous racontait une histoire d'une princesse indienne, Sioux ou Dakota, probablement Dakota, parce que c'est des Indiens là-bas, qui voulait se marier avec un prince d'un autre tribu. Et les pères ne voulaient pas. Et donc la princesse s'est sautée d'une falaise au bord de ce lac pour se tuer, parce qu'elle voulait vivre, elle voulait se marier, on ne permettait pas. Donc je crois que la combinaison de cette histoire qu'on nous a racontée au bord de ce lac et le fait que j'étais au milieu sans rien voir, tout s'est éteint, tout. Il n'y avait plus rien. Toutes les points de référence, les rives, la princesse, le vide absolu. Dans un premier temps, c'était rien du tout, mais tout de suite après, j'étais terrifiée, évidemment. J'étais une petite fille dans un bateau. Je n'avais jamais expérimenté ça. Waouh ! Et c'était un frisson à l'intérieur. Alors, pourquoi je raconte ça ? C'est parce que c'est quelque chose de très concret qui peut nous parler de cette vision tellement large et ne pas être fixée sur quelque chose. C'est large comme l'océan. Et qui inclut tout. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais ça inclut tout. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais il y a tout dans ça. Et donc cette simple pratique de poser le regard à 45 degrés et ouvrir le champ périphérique, radical, formidable. Qu'est-ce que ça a à voir avec regarder le mur ou pas regarder le mur, hein? Donc là, on rentre dans les choses qui rentrent dans l'histoire zen, les légendes même, parce qu'on ne sait même pas ce qui est vrai dans cette histoire, mais il y avait un prince indien qui est venu en Chine, un pratiquant bouddhiste qui est venu en Chine. En Chine, il y avait déjà, c'était le 4e siècle, il y avait déjà des pratiques bouddhistes dans cette configuration, mais c'était plutôt à le modèle indien, qui est très différente que les cultures, la société, les mythes, la façon de voir le monde, et la cosmologie indienne est très différente que arrivent en Chine. Et ils ont beaucoup de mantras et déités. Ils étaient beaucoup influencés par l'hindouisme, aussi par le bouddhisme, ce qu'on appelle primitif, parce que c'est de là où était le Bouddha. Et donc, et tout ça, c'était un palier sanskrit, et c'était très, ce qu'on appelle traditionnel. Et la façon que ça avait un peu évolué, c'était qu'il y avait beaucoup d'objets, de statues, des choses à vénérer, comme dans le hindouisme, etc. Le bouddhisme était plutôt comme ça. Bodhidharma arrive, cet homme, ce prince arrive, et lui avait une autre version. Il avait une autre expérience qui était une pratique, comme il disait, qui était en dehors des sutras, parce que ça, c'était une pratique très importante. C'était les sutras qui étaient compilés deux siècles, pour certains, après la mort de Bouddha, et qui étaient transmis d'abord d'une façon orale, et puis après, on commençait à les écrire. Mais c'était très important, les sutras. Et la pratique était devenue plus ou moins rituelle et récitant les sutras. Quelque chose comme ça. Et une méditation autre que ce que Bodhidharma allait proposer. Alors, Bodhidharma arrive et il dit, non, la pratique, c'est en dehors des sutras. En dehors des mots, en dehors de tous les objets, les statues, tout ça, ça frappe directement à le cœur de l'être. C'était son message primordial. Il a eu une rencontre avec l'empereur qui est devenu célèbre, où l'empereur, qui avait beaucoup facilité le bouddhisme avec les sutras, toutes les choses sacrées, rituels, les statues. Il finançait tout ça, il finançait les monastères, les temples, etc. Et il voulait rencontrer ce Bodhidharma. Il avait entendu parler de ce type qui disait d'autres choses. Et les gens parlaient autour de lui. Et cet empereur était un pratiquant bouddhiste. Et donc, Bodhidharma arrive, on le fait venir, il arrive. Et tout de suite, l'empereur lui demande, regarde, c'est tout ce que j'ai fait. Et quel mérite il y a dans ça? Il veut bien qu'on lui dise, bah oui, tu vas aller passer les bardeaux et tu vas finir dans le paradis. Enfin, vous allez être respecté, vénéré, vous êtes un grand être, un bodhisattva, etc. Et Bodhidharma lui dit, pas de mérite. Il faut oser quand même devant l'empereur qui a fait tout un tas de choses fabuleuses, il dit pas de mérite. Et tout de suite, l'empereur est confus et il dit, attendez, quel est le... Bodhidharma lui fait un petit discours après ça, mais c'est pas ça qu'on garde de cette histoire. Et donc l'empereur lui dit, bah, alors quel est l'enseignement fondamental du bouddhisme, si ce n'est pas de faire tout ça, etc. Et Bodhidharma lui dit, rien de sacré. Non, il dit d'abord, vaste vide, rien de sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, là? Si rien n'est sacré, moi, j'ai passé ma vie, les richesses de mon royaume, à faire des choses sacrées, et ce type-là arrive et il me dit qu'il n'y a rien de sacré. Et qu'il n'y a que le vaste vide. Vision périphérique qui s'étend à tout jamais. Il n'est pas très content, l'empereur, d'entendre ça, et surtout, il ne comprend pas. Et donc, il dit, mais qui es-tu qui se présente devant moi? Bodhidharma dit, je ne sais pas. Alors là, OK. Et il paraît que ce n'était pas, ils ne se sont pas partis d'une façon, c'était amical plutôt. Mais Bodhidharma est parti tout de suite. Il n'y avait pas de conflit, mais l'empereur ne comprenait pas. Et Bodhidharma est parti, la légende dit qu'il est parti, il est allé dans les montagnes, il est allé dans une grotte et il a passé 9 ans, selon la légende. On vient à notre histoire de mur. Il a passé 9 ans, on dit, dans différentes traditions, différentes traductions, à contempler le mur, face au mur. En anglais, c'est « wall gazing », c'est « regarder le mur », quelque chose comme ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est traduit du chinois. Et en chinois, une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Donc, c'est là où cette formule en anglais, wall gazing, est très intéressante. Parce que dans le mot en chinois, c'est piquan, qui, on dit, n'est pas s'asseoir while, s'asseoir pendant on regarde le mur, mais s'asseoir comme un mur voit. S'asseoir en regardant comme un mur regarde. Ça, c'est une possible traduction. En fait, la traduction, le truc, c'est pas facile de traduire parce que le mur, c'est pi. Le mot, c'est pi. Et quan, c'est percevoir. Donc, mur percevoir. Est-ce que c'est le mur qui perçoit? Est-ce que on perçoit comme un mur? Est-ce qu'on contemple le mur, on perçoit le mur devant nous? Est-ce que c'est le mur qui nous perçoit? C'est pas évident hein, de traduire du chinois. Alors,
c'est chinois.
Quoi?
C'est du chinois.
Oui, c'est ça. Et ce n'est pas étonnant qu'on dise ça en français, que quand on ne comprend pas, c'est chinois. Alors, il y en a qui dit, j'ai lu ça, je ne me souviens pas où, mais on dit que Bodhidharma était à l'origine de ça, de cette expression. Et on va regarder un peu plus près cette expression, mais on dit que Bodhidharma était à l'origine de ça. Bien qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, et cette notion, et cette, c'est pas en chinois cette expression, mais cette notion apparemment apparaît dans les sutras Mahayana. Cette notion, c'est une autre qui est quelque chose du genre quand, là je connais en anglais, mais... quand on abandonne, quand on laisse tomber le vrai, le faux, et on embrasse le vrai, mais c'est pas faux ou vrai, c'est que le vrai, c'est juste ce qui est. Et le faux, ce sera ce qu'on ajoute à ça, disons, quelque chose comme ça. Quand on demeure dans la simplicité du piquan, donc il y a ce mot, piquan, on trouve que il n'y a ni moi ni l'autre, et que les gens ordinaires et des saints ont la même essence. Donc, in English? Okay, so when abandoning the false and embracing the true, in simplicity of thought, abiding in piquan, or abides piquan, demeure piquan, one finds that there is neither selfhood nor otherness, that ordinary men and saints are of one essence. Et donc, on retrouve Bodhidharma dans vaste, vide, rien de sacré. Les choses ordinaires, les choses sacrées sont un. La simplicité de demeurer piquan, demeurer mûr contemplé ou mûr contemplant, quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais dire, et là j'ai noté en français plutôt que de noter dans mes mots en anglais, enfin c'est mes mots en anglais, mais j'ai traduit, c'est que dans tous les cas, Bodhidharma ne prenait pas le mur comme un objet de méditation. Parce que ce sera dualiste d'avoir cet objet. Donc, si on est face au mur ou pas, le mur n'est pas l'objet de méditation. Et comme j'ai dit dans le chinois, il ne dit pas qui regarde, si c'est le pratiquant ou le mur. Ou rien de tout ça est spécifique. Donc, et donc, c'est plutôt comme si Bodhidharma parlait du méthode de méditation que lui, il appelait Piquan, comme si c'était une méthode, que n'était pas littéralement, physiquement, un mur et moi face à ça, mais une méthode qui rejoigne, c'est juste poser le regard et ouvrir. C'est quelque chose comme ça. Que c'est l'esprit, que Piquan, ce sera comme the mind, mais c'est difficile, on dit en français, l'esprit, quoi. Que, comme j'avais dit, c'est comme si l'esprit perçoit Quan comme un mur perçoit. Sans jugement, sans distinction. Tout est un, vaste, pas de sacré, pas ordinaire. Oui, c'est quelque chose comme ça. Donc, d'une certaine façon, on s'en fout si on est face au mur ou non. C'est-à-dire que les pratiques, et donc là, pour revenir à notre truc plus moderne, c'est que le Zen Soto, qui est une des écoles Zen, a retenu comme si c'était littéralement ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas compris Piquan, je ne sais pas du tout ce que je dis, mais ils ont choisi de cultiver cette Piquan en littéralement se mettant face au mur. Pour différentes raisons, et je suis sûre que Sylvain peut nous dire des choses là-dessus. Mais aussi Soshin, elle avait dit que son école, ce qui est la même école que moi, hein, qui est le même lignage, eux, ils sont face au mur. Sauf la première période le matin et la dernière période le soir. Et moi, les premières années, dans ma sangha avec mon maître, on était face au mur, comme ça. Il faut dire que dans une autre principale école zen, la Rinzai, on n'est pas face au mur. On est face les uns les autres. Et l'origine de ça, c'est en partie parce que en Chine, les bouddhistes étaient persécutés et ils étaient à un moment, donc au moment où le changement s'est effectué probablement, et il a fallu qu'ils se cachent. Donc, ils se créaient des communautés agricoles, enfin, où ils vivaient ensemble, ils cultivaient les terres, ils mangeaient ensemble, etc. Plutôt que d'avoir des robes qui les identifiaient comme quelqu'un de spécial, ils avaient fait ces petits trucs-là et les mettaient sous leurs habits. Et ils étaient vraiment dans le monde de vie de tous les jours, tout le temps. Ils étaient obligés d'engager dans le monde et ils étaient obligés d'élargir leur vision. Ils étaient obligés d'être présents avec les uns les autres, comme ça, et regarder l'intérieur. Ça, c'est un peu une histoire d'origine qui est évidemment élaborée de différentes façons, mais c'est une explication un peu basique, quoi. Et donc, nous, dans mon école, comme j'ai dit, notre école, on a notre lignée, plutôt, le maître qui a amené ça du Japon a reçu les transmissions des deux de Soto et de Rinzai. Et donc, nous, notre pratique est imprégnée de ces deux traditions. Et donc, pour nous, c'est tout naturel de se mettre face les uns les autres. On peut très bien, comme on l'a fait, être face au mur. Les deux sont valables, enfin, je répète. Et ce n'est pas un sujet de jugement. Bien qu'il y a des Rinzai qui disent « Ah, ils sont nuls, les Soto », et il y a des Soto qui disent « Ils sont nuls, les Rinzai ». Mais pas tous, hein. C'est pas du tout tous. C'est... Quoi ?
Quoi ?
Non, c'est pas cool. Donc ça, et même au sein des écoles Soto et des écoles Rinzai, il y a des disputes. Comme on l'avait évoqué, l'éveil est soudain et l'éveil est graduel et tout ça. Bon, bref, ça, on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est important de regarder, de questionner, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on se met face au mur? Et d'où ça vient? Et quelle est mon expérience? Donc, je suis contente que je t'ai pas amenée à donner toute cette talk avant qu'on se met face au mur. Je n'aurais pas fait, parce que je veux qu'on ait une expérience de ça et voir ce qui se passe pour chacun quand on fait ça. Et de voir ce qui se passe quand on se retourne de nouveau. C'est très, très intéressant. On peut s'ennuyer, on peut être captivé par ce qui est devant nous. J'ai pas très bien suivi l'histoire du radiateur et poêle, mais différentes personnes avaient différentes choses devant eux. Il y en avait qui avaient cet arbre, des montagnes distants, quoi. On est quand même censé faire ça. Voilà. Ouais. Donc, bien vu. Bien vu. Parce qu'on n'est pas censé regarder là comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, si c'est un radiateur, le mur, le plancher, quoi, c'est ça. Quoi ?
À moins d'être très, très grand.
Il faut te regarder. C'est ça. Alors, donc. C'est cette d'une certaine façon, le monde est un mur. Et
pardon,
le monde est un mur. Ah. Pas que ça me bloque, mais que on peut pas le saisir. Il y a rien à attraper. C'est tellement changeant, tellement varié, tellement divers, que dès qu'on attrape une chose, il y a une autre chose qui arrive. Okay. Et comme on dit, on peut très bien saisir quelque chose et le tenir, mais on n'a que ça. Tandis que si on ouvre sa main, on a tout. Fixer le regard sur un point sur le sol, c'est un peu comme ces trucs qu'on met sur les chevaux. Comment on dit ça?
Les œillères.
Les
œillères. Œillères. En anglais, on dit blinder. Littéralement, les choses pour aveugler. Ouais. Et.
Une variante collerette pour les chiens.
Exactement. Sauf que. Oui, c'est ça.
C'est pas le même usage.
Oui, c'est pas la même idée, mais c'est un peu le même résultat. Et donc les chiens sont traumatisés avec ces collerettes, parce que ça enlève cette vision périphérique sur laquelle ils ont besoin, quoi. Tout le monde regarde ce que c'est les collerettes sur les animaux. C'est toujours la chose horrible d'entendre quand on est chez le vétérinaire. « Ah, il faut mettre une collerette. » Quoi ?
C'est marrant.
Oui. Donc nous, quand on dit « Ok, je vais fixer cet point », on se met une collerette. Quand on ferme les yeux, je me mets une énorme collerette, là, hein, si je ferme les yeux. On met les œillères. Énorme si on ferme les yeux. On se coupe vraiment de tout ce vaste monde, quoi. Cette vaste vide qui est plein, en fait. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'il y a tout. C'est ça, rien de sacré, parce que tout est sacré. Et tous les mystiques, depuis tout le temps, de toutes les traditions, religieuses ou non, c'est ça. C'est le sacré immanent, partout, à chaque, dans chaque chose, chaque être, chaque instant. Tout est sacré. Mais évidemment, si on commence à dire ça c'est sacré et ça c'est pas sacré, impossible d'expérimenter ça. Et si avec notre vue, on commence à choisir ce qu'on va regarder, ce qu'on va laisser rentrer dans notre champ, pareil, on se limite énormément. Je ne sais pas s'il y a des gens, probablement il y a des gens assez âgés pour se souvenir de ça, et même peut-être les autres étaient petits. Dans les années 80, il y avait ces livres qui étaient des figures, je ne me souviens pas comment ça s'appelait, des figures apparemment c'était un truc géométrique, mais...
Ah oui.
Mais comment ça avait un nom
Il fallait troubler son regard pour que ça devienne exactement. Un volume.
Exactement, pour voir. Mais en fait, en quoi que c'était troubler le regard, mais c'était élargir.
C'est ça.
Et ne pas être fixé sur cette image qu'on voyait. Est-ce que tout le monde...
Il fallait un peu cligner des yeux. Hein.
Quoi ?
Il fallait un peu fermer les yeux.
Oui, il fallait élargir. C'était vraiment ça. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait. Est-ce qu'il y en a qui savent, tout le monde sait plus ou moins dans ton coin?
Mais c'est un truc, c'est qu'un œil, tu veux pas, c'est ça? C'est
quoi?
Forcément, il faut forcément avoir deux yeux. Non, mais c'est vrai.
Ah, je sais pas. Oui.
Ben, moi, je sais que je crois que j'ai. Enfin, mais peut-être je confonds avec les choses en relief, mais comme j'ai qu'un œil, je sais que ça, je voyais pas.
Peut-être,
ça,
je ne sais
ça
pas.
Ça vient jamais parce qu'il faut avoir les deux yeux.
Ah, peut-être, mais.
Probablement.
Oui, c'est possible, hein. Oui, c'est ça.
Des fois, on percevait en clignant des yeux, non?
Oui.
Peut-être, oui. C'est...
Vous voyez,
ce truc-là, ces livres-là, oui, oui, tout le monde trouvait sa façon de faire. Mm-hmm. C'est... mais c'était le principe de ne pas se fixer sur cette image qui était là. Et pour c'était presque comme si on se retirait, ou fermer les yeux, cligner, etc. Mais c'est pour ne pas être figé sur cette vision habituelle. Pour élargir, et là, on voyait émerger une espèce de... Je ne me souviens même plus ce que c'était. C'est comme si c'était un autre univers. Ce qui est ça dont il s'agit. Ce n'est pas un autre univers, mais on a expérimenté ça autrement. On voit le véritable univers qui est là. Sans nos idées, ce qu'on met dessus. C'est pour ça qu'on parle de ces choses. Il y a comme si un voile s'élevait, c'est comme si tout brillait... comme tout était lumineux, bah, c'est lumineux. C'est, mais on ne le voit pas. C'est lumineux. Toi, tu es lumineux, mais tu ne le vois pas. Parce qu'on a, que ce soit métaphore de mes idées, mes façons de faire, mes habitudes, mes attachements à moi, tout ça, ou si c'est littéralement, je me ferme les yeux quand je médite. Enfin, donc encore une fois, il y a des pratiques, peut-être que ces pratiques portent certaines techniques de fermer les yeux. Et probablement il y en a. Et je ne dis pas que ce n'est pas valable ça, mais pour ce que nous on fait dans cette pratique zen, il s'agit d'ouvrir les yeux. Et puis on parlait des mystiques. Et puis on parlait des mystiques, que j'adore, étant un mystique moi-même. Je pensais tout de suite, on l'entend tout le temps, c'est très connu, c'est sur les calendriers, c'est sur des trucs qu'on accroche au frigo, etc. Rumi.
Okay.
Rumi. Oui. Mais qui est un magnifique mystique quand même. Hein. Et si on a retenu toutes ces choses qu'il a dit, c'est parce que ça nous parle. Souvent, je pense qu'il y a des malentendus de ce qu'il dit, mais n'empêche que beaucoup de gens sont touchés par ce qu'il dit. Et c'est merveilleux de penser qu'on vit dans un monde où on met, comment on dit, les trucs qu'on met au frigo. Les
magnettes.
Les magnettes qu'on met sur les magnettes quand on accroche au frigo. Un truc de remis. Mais c'est super quand même qu'il y a un monde où les gens s'intéressent à ça. N'est-ce pas? On rigole, mais quand même. Enfin, pas qu'on met un truc sur
moi,
un
frigo. Moi, j'ai mis Che Guevara et Frida Kahlo.
Voilà, ben, y a ça aussi. Absolument. Et là, c'est des gens qui approchent quelque chose d'une limpidité qui touche tout le monde, d'une façon ou l'autre. Quoi. Donc, le truc, c'est le classique Rumi, c'est au-delà des notions de bien et du mal. Donc, non-duel, pas sacré, pas ordinaire. Il y a un champ. C'est ce champ-là. Je t'y retrouverai. Parce que comment je ne peux pas t'y retrouver? Parce que je suis toi. Quand l'âme se couche dans cette herbe, le monde est trop plein pour qu'on puisse parler. Tout y est. Tout est sacré. Un mot va ajouter quelque chose de cette expérience directe des choses telles qu'elles sont. Les idées, le langage, même l'expression l'un l'autre n'ont aucun sens. C'est vraiment le divin en toute chose. L'unité, non-dualité, j'ai noté une liste des choses que je ne voulais pas oublier. Le non-dualité, le sacré qui imprègne tout. Ou même, ça c'est même dualiste, parce que tout est sacré. Mais on le voit comme tout ce qu'on voyait comme ordinaire, soudain est imprégné du sacré. C'est une expérience pure. Et j'ai pensé à ce truc de Lao Tzu qui dit que, je crois que c'est quelque chose comme ça, le Tao qui peut être nommé, le Tao c'est la voix, ou ceci, ou cela, comme on disait, n'est pas le Tao éternel. C'est fixé, c'est ceci et le Tao. Mais... ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On passe notre vie à ça, ça.
Le Tao. Mais le Tao, quoi. Enfin, le Tao.
Je ne sais pas, qu'est-ce que...
Non, mais c'est pas une blague. Le Tao.
Oui.
Oui, non, mais on est d'accord.
T-A-O.
Ouais, T-A-O.
Qui parfois est Dao, D-O. D-A-O.
Non, mais comme tu disais le Tao... Enfin, il y avait un petit truc de prononciation où j'étais un peu trop...
Excuse-moi.
Non, mais pas...
Excuse-moi.
Juste pour ça, d'accord.
Oui. Et donc ça nous ramène à ce champ vaste, le mur de l'univers. Moi j'aimais autrefois, bon, parce que j'étais un peu dans un truc de irrévérent, rebelle. J'aimais bien, j'étais un peu Alain se souvient de ça, le 10 kilos sauvage. Tu te souviens? Quand je faisais le 10 kilos, j'étais un peu sauvage. Mon idée, c'était que Bodhidharma, effectivement, il allait dans une grotte qui était sur une falaise et il se mettait devant la grotte, face au vide. Et il a passé 9 ans à faire ça. 9 ans même... On ne sait pas. Grotte, on ne sait pas. Après, il a fondé, selon la légende, cet temple et cette monastère Shaolin qui a donné suite à tous les arts martiaux que Bodhidharma est apparemment considéré comme fondateur de tout ça aussi. Il y a beaucoup de légendes autour de Bodhidharma. Et donc... Ce qui a retenu dans le Zen, c'est cette histoire de face, contempler le mur, ou contemple mur, ou percevoir mur. Le chinois est merveilleux pour ça, parce qu'il n'y a pas de sujet. Et c'est ça qui reste dans notre pratique, de ça. Alors, ce matin, il y avait le sujet de... Dans la tradition, il y a des gens qui sont le maître, le jikiro, la personne qui sonne les cloches, et dans un grand zendo, les gens qui sont au coin, aux quatre coins, qui ne vont pas être face au mur. Et comme Sylvain avait dit, c'est pour observer, c'est un peu comme un surveillant, pas parce qu'il veut contrôler si quelqu'un fait une bêtise, mais juste de veiller sur l'assemblée. C'est ça l'esprit, dans comme tu as dit. Hein.
Oui, c'est vraiment... C'est pas une surveillance pour moi, c'est vraiment... Non, c'est vraiment une, ouais, je dirais, comme un regard d'une mère sur...
C'est ça, veiller sur...
Protection.
Oui, oui. Et de bien-être, quoi, de bienveillant, quoi. C'est ça. Et il y a une histoire dans notre lignage que après le mort, il y avait une grande tradition zen en France, c'est qui a été fondée par Deshimaru, un maître zen, enfin qui n'était pas maître zen au début, mais qui est devenu. Après, il avait une énorme communauté, des centaines de moines et des groupes partout. Et il avait créé un énorme centre à la campagne avec de l'argent du Japon, etc. Et après sa mort, il n'avait pas de successeur, il n'avait pas donné de transmission. Et donc, c'était un peu précaire pour cette communauté. Et surtout, des gens qui pouvaient considérer comme les successeurs n'étaient pas d'accord entre eux non plus. Et donc, c'était un moment très précaire.
Ça, c'est quelle année
il est mort en quelle année? 72 peut-être?
Non, je pensais dans les années 70, mais...
Oui, ouais. Dans les années 70, il est mort, oui. Et Maizumi Roshi, qui est notre fondateur de notre lignage en Californie, qui était très proche du Vatican zen au Japon, tout le monde parlait de ça, et donc il est venu, il venait en Europe pour des activités de son lignage, et il est venu à Paris pour proposer à ces gens de Deshimaru de les aider, de les soutenir, s'ils avaient besoin d'aide ou quelque chose, parce que c'était un maître connu, et il voulait les aider, parce qu'il sait comment c'est quand le maître meurt. Et donc, ils l'ont invité à venir faire zazen avec eux, et ils l'ont mis face au mur. Ils l'ont fait s'asseoir face au mur. Ce qui, pour un maître zen, un roshi, dans cette tradition, c'est un insulte, un manque de respect, un manque de ils n'ont pas du tout honoré. Ah, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou s'ils n'étaient pas au courant.
Les deux.
Ah, on ne sait pas. Je ne veux pas les accuser de l'avoir fait exprès, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et lui, pour un japonais, c'était une honte, un manque de respect. Et il est parti et il n'est jamais revenu.
Et il ne sait pas cette histoire.
Voilà, et ils n'ont jamais sollicité. Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés par son aide, en fait. Ils avaient ils voyaient ça autrement et ils ne voulaient pas que d'autres gens interviennent. Je crois que c'est ça.
Un maître vexé, c'est pas tout à fait un maître, si.
C'est
un maître vexé, c'est pas tout à fait un maître.
C'était pas qu'il était vexé personnellement. Là. Non, c'était pas ça. C'est pas qu'il personnellement était vexé, mais il trouvait que ces gens-là n'avaient pas respecté la tradition, qu'ils étaient censés honorer, que c'était un manque
de reconnaissance peut-être.
Il l'a aussi interprété comme une manifestation d'ignorance, très clairement.
Oui, c'est ça.
C'est un manque de protocole aussi.
Oui, c'est ça. Et pour les Japonais, c'est très important. Mais ce n'était pas personnellement lui, Taizen Maizumi, qui était vexé, mais oui, peut-être même j'aurais pas dû employer le mot vexé, mais que c'était un affront à ce que c'était l'esprit zen, etc., tout ça.
Et un affront au lignage, non ?
Oui, probablement. Oui, à son lignage, etc. Oui, probablement.
Enfin, au lignage zen.
Oui, au lignage zen, et aussi à sa lignage, parce que c'était pas le même que les Shimao, etc. Bref.
Il était japonais ou pas du tout ?
Ah oui, 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 japonais. C'était un moine japonais. Hein.
Oui, oui, c'était un moine japonais.
Oui, oui.
Donc lui, il est venu du, enfin, il est venu du Japon ?
Oui.
De Shimao, pour créer ce...
Non, pas
vraiment. Non, il était invité, et puis il est resté. Et ensuite, il a créé...
Et comment il s'est débrouillé pour pas avoir de successeur ? Parce que c'est quand même... C'était beaucoup d'années, non ?
C'était pas tant que ça, hein, ah, les années. Et
il a été malade, je crois.
Il était malade à la fin. Mmh. Et il a aussi, au début, il n'était pas maître. Okay. Bien qu'il se présentait comme maître. Oui, oui, oui. Et il a ordonné plein de moines, des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient... Je connais des gens, ils ne savaient pas qu'ils allaient être ordonnés moines. Ils pensaient qu'ils prenaient juste les vœux de Bodhisattva, etc. Et puis, il est retourné au Japon. Il a dit, j'ai 300 moines. J'ai besoin d'avoir la transmission et j'ai besoin d'argent pour les loger. Et comme le Vatican japonais voulait bien avoir être implanté en Occident, et donc il voulait le soutenir, donc il en donnait plein d'argent, il a créé son centre, il a reçu les transmissions, et puis je crois que c'était assez tard dans ce... toi tu sais parce que Jacques était avec lui, hein.
Jacques il a
Jacques c'est Casterman,
non, Jacques Bross.
C'était le maître original de...
Oui, le premier maître, c'est là. Ouais, je sais que lui, il a été ordonné par Deshimaru. Après, il n'a pas reçu la transmission. Donc,
voilà, Deshimaru. C'est ça. Parce qu'il n'a donné de transmission à personne.
Personne, oui, c'était vraiment le bazar, hein, d'après ce que j'ai compris.
C'est ça.
Ça a été vraiment
mais
le bazar.
Mais Deshimaru n'avait pas la transmission.
Au début.
Mais après,
il est retourné, il a insisté
mode,
pour...
Il a reçu la transmission sur le mode japonais, c'est-à-dire qu'il fallait compte tenu...
Qu'il
je
lui...
connais bien l'histoire, quand même. Il est arrivé chez mon maître en 69, Deshimaru. Donc je connais très bien
l'histoire. Mais c'était un disciple de Kodosawaki.
C'était un moine de Kodosawaki, etc.
Il prétendait être un disciple de Kodosawaki.
Enfin... On va pas rentrer dans tout ça. On va pas rentrer dans tout ça.
Non, mais l'expérience, on sait, c'est un fait. Il a très peu travaillé avec Kodosawaki.
Mais bon, tout ça, pourquoi on a parlé de ça ? C'était l'histoire de face au mur.
Il a voulu aider, on l'a assis face au mur.
Oui, oui.
Alors que moi, je vois dans la sangha actuelle. Je vois, c'est étonnant parce que cette histoire d'honneur dont tu parles, tu vois que le maître il doit être face au centre. Je l'ai pas ressenti ça. Alors est-ce que c'est parce que, c'est-à-dire j'ai pas ressenti ce truc que le maître il doit être face au centre parce que c'est un honneur. C'est juste parce que c'est.
Parce que ce n'est pas en fait.
Bah oui, enfin je.
Ce n'est pas. C'est ça. Enfin pour nous on expérimente ça comme ça. Peut-être pour les Japonais pur et dur.
C'est peut-être.
C'est parce qu'ils sont assis sur les estrades.
Oui, alors c'est plutôt...
C'est une autre façon de faire. Enfin, tout ça, ça nous éloigne de poser le regard.
Voilà.
Ouvrir l'esprit périphérique.
Perception. Ouvrir la perception.
Ça. Et le sacré. Tout est sacré.
Ça renvoie à la phrase de William Blake. Si les portes de la perception étaient ouvertes, ils sont là. Si les portes de la perception étaient ouvertes, elles montraient ce qu'elles sont véritablement, infinies, sans limite.
Oui, c'est ça. Ah oh oui, les poètes sont au courant. Hein.
Surtout William Blake.
Oui, c'est ça. Où il y a Walt Whitman qui dit, le poète américain du 19e siècle, qui dit. Dans un long fleuve de mots, etc., il dit « Enlève les fenêtres !» Non, « Ouvrir les fenêtres !»« Ouvrir les portes !»« Enlève les portes de leur cadre !» C'est-à-dire « Ouvrir tout !» Et il vénérait Blake. Oui.
Oui, c'est là. J'ai une question. Du coup, c'est la première fois que j'arrive à méditer les yeux ouverts depuis le début de la séchine. Et en fait, du coup, je me suis heurté au problème de la réalité et l'illusion. Parce que je pense que tout le monde, en fixant un point, même avec une vision large ou profonde, il y a à un moment donné, il y a des effets psychédéliques qui se passent et ça bouge et ça commence à être hyper lumineux. Il y a la lumière qui passe alors qu'il y a, elle passe pas dans la pièce. Du moins, ça peut même monter en volume. Et ce que je me suis dit, c'est qu'à chaque fois que ça commençait à faire ça, que en fait, je commençais à sombrer dans l'illusion.
Oui. C'est vrai.
Et mais je me suis dit, hop, illusion, là tu es en train de d'occuper ton mental parce que c'est des choses qui sont que j'aime bien moi par exemple avoir des visions hallucinogènes comme ça là, et du coup mais c'est vrai que ces visions font quand même référence à ma psyché personnelle. Je vais voir d'un coup des montagnes et puis après je peux voir un chat et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, je suis arrivé à une espèce de mix en fixant du coup, à force de regarder et de lâcher l'esprit, d'avoir un entre-deux comme quelque chose de assez fixe et très lumineux, très blanc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est ça la réalité, mais en fait c'est un truc à devenir un peu c'est que finalement il n'y a pas vraiment de réalité. Ça me rappelle ce qu'on dit la réalité
sans limite,
je fais le vœu de la voir, les illusions, hop, je fais le vœu de... Mais du coup, là, waouh, c'est comme si, en fait, c'était l'ensemble de tout ce que je peux voir qui est la réalité. Mais je ne sais plus quoi regarder, du coup. Non, j'ai l'impression d'être à côté de l'exercice même de la proposition méditative. C'est une espèce de contemplation, mais effectivement, vite, on s'aperçoit que ce bout de bois n'est pas... Il peut se transformer en braise, en transparent, en lumière. Du coup, voilà, j'aimerais bien être éclairé.
Bah, donc, à plusieurs fois, tu as employé le mot fixé, et on n'est pas censé fixer.
Non, mais...
Donc, poser. Ceci dit, même en posant le regard, tout ce que tu décris, on peut vivre. On peut expérimenter les visions, etc. Ce qui est juste, d'une certaine façon, visuel, ce qui se passe dans notre tête. Donc, les pensées, c'est une façon non visuelle, bien que parfois ça peut être visuel, les pensées. Et là, c'est aussi ça. En japonais, ils ont ce mot qui est makyo. Makyo, c'est tout ce que tu décris là. C'est illusion. Tout ça, c'est illusoire. C'est les illusions. C'est comme des mirages dans le désert quand on voit la chaleur. C'est des phénomènes qui se produisent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Bah, les voir pour ce qu'ils sont. Et on peut choisir de s'engager avec ça et suivre et fabriquer et enchaîner les pensées, les images et mettre ces superbes trucs qu'on voit psychédéliques dans un train, qui est des pensées, etc. Ou on peut juste, ok, c'est ça, et rester d'autres choses, ne pas s'accrocher à ça, juste continuer d'ouvrir, parce que, comme j'ai dit, c'est une pratique d'inclure, de ne pas exclure. Effectivement, ça peut nous amener à quelle est la réalité alors. Tu avais dit quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Et là, c'est une superbe question. ça peut être quelle est la réalité, quelle est la vérité, donc, qu'est-ce qui est véritablement là. Si ce n'est pas un planche, si ce n'est pas une planche de bois, qu'est-ce que c'est? Des superbes questions, ça c'est les Corans, quoi. Et ça peut nous amener à une expérience directe de la nature de être. Parce que ça questionne nos idées là-dessus. On peut dire, qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est l'heure là? Ah oui, ok. Je pense à ça. Comme j'étais journaliste, j'ai eu l'occasion d'interviewer le Dalai Lama une fois. Et j'ai peut-être déjà raconté cette histoire, je ne sais pas. Mais dans cette, au début, je l'avais dit que j'étais un étudiant zen, il y a 33 ans. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et donc, bon, j'ai expliqué mon entretien, etc. Et à un moment, j'ai remarqué qu'il avait une montre Rolex. Et donc, je lui pose des questions. C'est
un cadeau.
Oui, il avait dit que c'était un cadeau. Et que c'était une montre formidable, ça ne se cassait jamais. Il avait depuis des décennies. C'était parfait, etc. Et puis, on a enchaîné avec ça sur, je ne sais pas, mais c'était, je lui demandais comment il faisait avec le jet lag, décalage horaire. Je crois que c'était à partir de montre, etc. Ah non, c'était peut-être, oui. Et, ah, non, il a dit, oui, je l'utilise la montre parce que je vais dans différents pays tout le temps et il faut que je sache l'heure. Je dis, mais comment vous faites avec le décalage horaire, le jet lag? Cet effet horrible quand on voyage. Et il me dit, ah, quand j'arrive, si on me dit que c'est 16 heures, je mets le montre à 16 heures et c'est 16 heures. Je dis, oh, ok, c'est simple, il faut que j'essaie ça la prochaine fois. Et je dis, mais ok, c'est 16 heures. Et je dis, mais. Soudain, j'ai cette question, je dis, mais qu'est-ce que c'est la réalité, alors? Toute, quoi?
Non, rien, j'imagine le Dalai Lama.
Et donc, j'étais entourée d'hommes. Il y avait des grands moines, il y avait son interprète, il y avait l'ambassadeur de Tibet à Paris. J'étais sa femme. Et lui, il parlait en tibétain, moi en anglais, et le traducteur traduisait. Et donc, quand j'ai dit ça, il comprenait l'anglais, mais il préférait me répondre. Et donc, quand j'ai dit quelle est la réalité, toute. Et puis le Dalai Lama a dit quelque chose en tibétain. Et tout le monde éclate de rire. Et l'interprète se tourne vers moi et il dit, sa sainteté dit que vous êtes une très bonne étudiante zen. Donc. Et donc, je ne comprends pas très bien. Et donc, il dit, je vais vous expliquer. Et donc, il y a une table là qui était devant nous. Et ça me dépassait complètement à l'époque. Mais c'était quelque chose du genre, il dit, voilà, c'est une table. C'est une table. C'est une pochée. Et ce n'est pas une table. Et il décortiquait comme ils font les Tibétains, les différentes choses qui font que c'est une table et pourquoi ce n'est pas une table. Et une longue discussion qui amenait vraiment au vide. Et j'étais... Qu'est-ce que je vais mettre ça dans mon journal? j'avais un enregistreur, c'était à l'époque quand il y avait toujours une cassette. Donc j'ai des cassettes quelque part, il faudrait que je les réécoute. Tout ça pour dire que quelle est la réalité? C'est une très bonne question. Très très bonne question. Qui peut nous amener très loin. Qui va nous amener vers le sacré en fait. Et l'amour. Donc on va s'arrêter là.
Oui, excuse-moi.